Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
À voter.
Bonjour, comment lutter contre l'abstention électorale? La question mérite d'être posée après un scrutin présidentiel en France boudé par 28% des électeurs. C'est certes toujours beaucoup mieux que lors des dernières élections européennes en 2019, où à peine plus d'un électeur sur deux s'était déplacé. Faut-il alors avoir recours au vote obligatoire? La Belgique l'a inscrit dans les textes dès 1893. Les sanctions sont rarissimes, mais l'impact est net. Le taux d'abstention est un des plus faibles d'Europe, même s'il n'a pas complètement disparu. À Bruxelles, les explications de Pierre Benazé.
En Belgique, l'abstention est récurrente malgré l'obligation d'aller voter. Lors des dernières législatives, l'élection la plus importante du Royaume, l'abstention a atteint près de 12%. Les catégories socioprofessionnelles les moins favorisées sont celles où il y a le plus d'abstentionnistes. Un paradoxe historique car en 1893, le vote obligatoire avait été obtenu par les partis de gauche pour permettre aux ouvriers d'aller voter. Les abstentionnistes sont surtout urbains. Ceux qui s'abstiennent le plus sont les Bruxellois. Ceux qui s'abstiennent le moins sont en Flandre et les Wallons sont au milieu. Et les Belges s'abstiennent moins aux municipales qu'aux législatives. Les lois belges prévoient pourtant des sanctions à l'encontre de ceux qui ne vont pas voter, mais elles ne sont appliquées que pour les assesseurs et présidents de bureaux de vote qui ne se présentent pas sans raison valable. Pour les électeurs, c'est en théorie 80 euros d'amende, 200 euros en cas de récidive. Puis, après 4 abstentions, on est censé être rayé des listes pour 10 ans. Mais la dernière condamnation remonte à 15 ans. Les poursuites étaient quasi inexistantes. Et le ministre de la Justice a affirmé publiquement que ce n'était pas une priorité, avec des tribunaux déjà surchargés avant même la pandémie. Un collectif de citoyens veut monter un parti blanc en faveur des abstentionnistes, à savoir un parti dont les élus promettraient de s'abstenir lors de tous les votes à l'Assemblée, l'objectif étant de parvenir à inscrire une prise en compte des votes blancs et nuls dans la loi électorale. Selon certains, le système de coalition entraîne un désintérêt des électeurs qui estiment qu'il y a moins d'enjeux qu'à l'élection présidentielle française, par exemple, qui, elle, en revanche, est très suivie par les Belges francophones.
Non mais attends, le vote obligatoire, c'est une dictature. C'est pour ça que j'irai pas voter, pour protéger la démocratie.
Puisque Choupette peut pas aller voter, je vois pas pourquoi moi je devrais aller voter. Ah, Choupette.
En Grèce, le taux de participation aux élections nationales est en baisse constante depuis la chute du régime des colonels et le retour de la démocratie en 1974. 80% des votants se rendaient aux urnes. Au début des années 90, il n'était plus que 57% au dernier scrutin national de 2019. La faute à la crise, au manque de confiance dans la classe politique. Et pourtant, le vote en Grèce est obligatoire depuis près d'un siècle, mais cela a bien du mal à se traduire dans les faits. C'est le reportage à Athènes de Joël Bronner.
Sur le papier, cela fait environ 100 ans que le vote en Grèce est obligatoire. Mais cette mesure législative, devenue essentiellement symbolique, a rarement été appliquée au cours de son histoire et ne l'est plus du tout aujourd'hui. Alors dans la rue, électeurs et électrices grecques, en particulier les jeunes, ne sont pas toujours très au clair avec la loi.
Non, le vote n'est pas obligatoire, c'est facultatif, mais il faudrait peut-être le rendre obligatoire pour que chacun exprime une opinion sur ceux qui nous gouvernent.
Il me semble qu'ici en Grèce, c'est bien possible que le vote soit considéré comme obligatoire, mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a aucune conséquence pour ceux qui ne votent pas.
Directeur de recherche du Centre pour les études libérales, un think tank athénien, Aristides Hatzis est aussi professeur à l'Université d'Athènes, où il enseigne en particulier la philosophie des lois.
À mon avis, les jeunes sont un peu perdus parce que voter est obligatoire en Grèce, mais que les sanctions sont inexistantes en cas d'abstentionnisme. J'ai personnellement représenté l'institution judiciaire au cours de plusieurs scrutins, et je me souviens que la dernière fois que j'ai fait remonter la liste des noms de ceux qui n'avaient pas voté, sans qu'il y ait de sanctions derrière, c'était en 1996. Donc maintenant, même les noms de ceux qui s'abstiennent ne sont plus connus des autorités. L'obligation de voter est purement symbolique.
Ce symbole du vote obligatoire, d'où vient-il? À la toute fin du 19e siècle, l'idée apparaît dans l'air du temps, lorsque la Belgique notamment adopte cette mesure. Le concept infuse alors à travers l'Europe pendant quelques années et en Grèce, la question fait débat. La Constitution finit par l'autoriser en théorie à partir de 1911, mais c'est en 1926 que la loi électorale déclare vraiment le vote obligatoire. Professeur dans une université suédoise, Antula Malkopoulou a publié en anglais une histoire du vote obligatoire en Europe.
Ce qui est intéressant, c'est qu'en Grèce, contrairement à d'autres pays, ce qui a surtout poussé les dirigeants à rendre le vote obligatoire en 1926, c'est le très grand nombre de boycotts qui étaient régulièrement organisés à l'époque par les partis politiques. Concrètement, dès qu'un parti sentait la victoire lui échapper au profit de ses adversaires, il boycottait alors le scrutin par pure stratégie. Et c'est pour mettre un terme à ce système que cette idée du vote obligatoire a été soutenu politiquement. Mais en réalité, cette obligation n'a pas été suivie d'effet. Pour vous donner une idée, lors du premier scrutin qui a eu lieu après la nouvelle loi, 39% des électeurs ne sont pas allés voter. Bien évidemment, il était impossible de prendre des sanctions envers un si grand nombre d'abstentionnistes.
Dès son origine donc, cette loi contre l'abstention ne sera pas appliquée et aucune amende prévue par le texte de l'époque ne sera infligée. Au final, la seule période de l'histoire de Grèce où le vote obligatoire a eu une réelle incidence politique, c'est après la Seconde Guerre mondiale, dans un climat de guerre froide. L'outil a alors été utilisé pour traquer les communistes et leur imposer amendes, sanctions administratives et même peine de prison à partir des années 60. Aristide Tsatsis.
En 1946, le Parti communiste grec a demandé à ses électeurs de s'abstenir de voter en raison d'une forte présomption de fraude en faveur de leurs adversaires de l'époque, les royalistes. Cela a constitué une erreur majeure et fourni à leurs opposants politiques une sortie de registre des sympathisants communistes réels ou supposés. De cette époque jusqu'au milieu des années 1970 au moins, les abstentions étaient donc considérés avec suspicion par les dirigeants. On les suspectait d'être soit communistes, soit proches de leurs idées.
Par la suite, le vote obligatoire n'a jamais disparu du cadre de la loi, mais les sanctions, elles, ont progressivement cessé d'être appliquées. Une absence de sanctions pénales confirmée par la révision de la Constitution grecque en 2001. Ce qui n'empêche pas la législation actuelle de manquer de clarté, comme le détaille Antula Malkopoulou, de l'université suédoise de Lund.
Depuis 2001, la constitution grecque affirme que le vote est toujours obligatoire, mais qu'il ne devrait plus y avoir de sanctions pour les abstentionnistes. Cependant, ce n'est pas ce que dit la loi électorale. La loi électorale, elle, inclut toujours le vote obligatoire et des sanctions. Tout cela est très déroutant. Moi-même, j'ai dû faire beaucoup de recherches pour m'y retrouver, parce que c'est un vrai labyrinthe. Et pour rendre les choses encore plus compliquées, le code pénal est lui aussi impliqué dans cette affaire. La loi électorale dit en effet que les sanctions relatives au vote obligatoire sont ou bien une peine de prison, ou bien d'autres sanctions prévues par l'article 63 du code pénal. Vous allez alors regarder ce que raconte cet article 63 du code pénal et vous vous apercevez qu'il n'existe pas, qu'il a été totalement supprimé en 2019.
It's such a labyrinth.
Un labyrinthe législatif et une obligation de vote purement symbolique qui encourage peu, aujourd'hui en tout cas, à trouver le chemin des urnes. En 2019, après une décennie de crise financière qui a contribué à ternir l'image du monde politique, 43% des Grecs se sont abstenus de voter.
Et s'il fallait une preuve supplémentaire que le vote obligatoire n'est pas la panacée, direction la Bulgarie. Même pour les élections législatives, le taux de participation ne dépasse que rarement les 50%. Lassé par les coalitions qui s'effondrent et se reforment, par la corruption de la classe politique, les électeurs ne sont guère motivés et ce n'est pas la loi sur l'obligation de voter qui ne comporte au final aucune sanction qui va les convaincre de se déplacer. Explication depuis Sofia, de notre correspondant Damien Vodenitcharov.
En 2016, la majorité parlementaire composée du parti centriste du Premier ministre Boyko Borissov et de plusieurs partis nationalistes lançait une réforme phare. Rendre le vote obligatoire pour limiter les abus et les fraudes électorales, grand fléau de la démocratie bulgare. Autre grand enjeu de cette réforme, le vote des expatriés bulgares. Cette diaspora d'environ 2,5 millions de personnes constitue un réservoir considérable de voix. Il représente plus d'un tiers de la population du pays et des ressortissants bulgares qui ont le droit de vote. L'idée dérape avant même que la loi soit entérinée. Le droit de vote est inscrit dans la Constitution. Sanctionner les électeurs qui refusent de voter pourrait être inconstitutionnel. Les élus tentent alors de trouver un compromis, des sanctions administratives qui vont, au mieux, juste agacer les électeurs sans vraiment les punir. Finalement, le vote devient obligatoire de manière assez théorique. Le texte dit que tout Bulgare n'ayant pas voté à deux élections consécutives du même type sera rayé de la liste électorale. Pour pouvoir voter de nouveau, il faudra se réinscrire à la mairie. Et si cela semble absurde, puisqu'au final, on crée des non-votants, la situation est encore pire lorsqu'on ne peut pas voter pour cause de maladie ou de voyage d'affaires. Il faut alors présenter un document officiel pour expliquer la situation, ce qui s'avère plus compliqué que de simplement ne pas voter et être rayé de la liste électorale. Un an plus tard, une décision de la Cour constitutionnelle rend même ces sanctions illégales. Le vote obligatoire demeure donc présent dans un texte de loi, mais sans que les électeurs puissent être sanctionnés s'ils ne se rendent pas aux urnes. À chaque matin, mes pattes, quand on me dit que la terre est plate, je suis devenu mythomaniaque sur le coup des fake news, fake news. Le vrai, le faux se mélange, plus c'est gros, plus j'y crois.
Et la question de la crédibilité de la classe politique, elle passe bien sûr par des informations fiables, ce qui nous amène à parler des fake news. En temps de pandémie, elles n'ont jamais été aussi présentes, si bien qu'on parle d'infodémie. C'est votre Europe, Alice Rouja, bonjour.
Bonjour.
Et on commence avec les fausses informations sur la guerre en Ukraine qui impactent particulièrement les jeunes électeurs.
Oui, un chiffre, il faut à peine scroller 40 minutes sur TikTok, réseau social le plus prisé chez les ados, pour tomber sur de la désinformation russe ou ukrainienne. Alors comme ils passent en moyenne une heure par jour sur le réseau, les 15-25 ans ont forcément vu passer des images de la guerre. Mais était-ce de vraies images ou simplement des séquences de jeux vidéo comme il en circule beaucoup ? Vu que certains les partagent, c'est possible qu'ils croient à ces infox.
Et ces infox-là, les jeunes ne les liraient pas dans la presse.
Non, mais de toute façon, ils ne lisent pas la presse et n'écoutent que très peu la radio. À la limite, ils regardent la télé, mais sur Internet. Selon le dernier Eurobaromètre, 93% des jeunes s'informent sur Internet et majoritairement via les réseaux sociaux.
Et il y a de tout sur les réseaux.
Oui, c'est simple et mathématique. En prenant plus de 240 fois son téléphone par jour, un jeune Européen consomme de l'information, consciemment ou pas, hein, plus de 3 heures par jour. Et dans ce flux, une multitude de fake news. Alors, ils ne sont pas naïfs. Hein. Selon une étude du CSA en France, 9 jeunes sur 10 déclarent savoir qu'une information se falsifie aisément. Mais ils sont un peu flemmards. 69% des ados interrogés dans cette même étude révèlent ne pas vérifier leurs informations. Ou alors, suspicieux, de toute façon, ils préfèrent croire les réseaux aux médias traditionnels une fois sur deux.
Mais il y a certaines fake news qui sont difficiles à repérer.
Oui, c'est vrai. Hein. D'après des chercheurs espagnols qui ont travaillé l'an dernier sur un échantillon de jeunes âgés de 18 à 22 ans, un tiers des sondés disent fréquemment repérer des fake news en scrollant, mais seuls 11% font la différence entre un fait alternatif et une véritable information. Dans l'Union, 50% des 15-30 ans sont d'ailleurs en demande d'outils pour débusquer les infox qu'ils jugent 8 fois sur 10 dangereuses pour la démocratie.
Et c'est la bonne nouvelle, des outils existent.
Oui, partout en Europe, des programmes d'éducation aux médias existent. Des profs, des journalistes décortiquent la fabrique de l'information devant des classes. Une façon de faire ensemble et de retisser la confiance dans les médias avec les plus jeunes. Il y a même des postes ouverts en volontariat européen pour animer de tels projets en Roumanie. Il existe aussi une plateforme qui s'appelle FactCheckEU, qui a été lancée en 2019 pendant la campagne pour les élections européennes. Elle indique sur une échelle la véracité des faits, plus ou moins vrais, avec des chiffres sourcés et vérifiés. Et pour rendre ludique la pratique de recherche d'informations et de quête des faits, l'université d'Essex au Royaume-Uni organise un concours en ligne de chasseurs de fake news chaque année. Enfin, dernière information, une grande base de données sur les fake news et les jeunes en Europe est en train d'être créée grâce à un partenariat pan-européen. Son nom, Smile, il rassemble des acteurs de Belgique, des Pays-Bas et d'Espagne avec l'idée d'avoir des chiffres sur ces faits.
Merci beaucoup Alice Rouja, à très bientôt. Et on termine notre émission par un détour en plein cœur de Berlin, juste à côté de l'Alexanderplatz. C'est là qu'on trouve une drôle de galerie commerciale, ou plutôt d'anti-galerie commerciale. Elle s'est installée tout un symbole dans un ancien bâtiment administratif de l'ex-RDA. Son nom, la Maison de la Matérialisation. Son but, battre en brèche l'hyperconsumérisme en proposant de réparer, de recycler au lieu d'acheter et de gaspiller. C'est le reportage de Déborah Berlioz.
Un fond de musique électronique dans un bâtiment décrépit. Des étagères remplies de planches de bois, de morceaux de métal, de tissus ou encore de rouleaux de PVC. Si l'ambiance rappelle celle des squats alternatifs de la capitale, on se trouve pourtant dans un vrai magasin de bricolage. Sauf qu'ici, tout est de la récup. Michael travaille pour Kunststoff, une des associations qui tiennent le magasin. Les matériaux qu'il vend viennent principalement de l'industrie de l'événementiel, du théâtre ou du cinéma.
C'est des événements temporaires où ils ont besoin d'une scène pendant un moment, ils vont le construire et ensuite ils n'en ont plus besoin. Du coup, ça peut être composé de beaucoup de choses. Ça peut être du bois, du métal, des textiles, des paravents, vraiment tout.
Son association démonte tout ça et le remet sous forme de matière première afin que cela serve pour d'autres projets.
Le dernier qui me vient en tête, c'est quelqu'un qui voulait se construire une nouvelle cuisine et qui voulait le faire soi-même. Du coup, est venu avec les mesures de la pièce. On a trouvé tout ce qu'il lui fallait. Il a été à l'atelier de bois et a pu couper sur mesure tout ce qu'il avait besoin.
Autour du magasin de bricolage, on trouve en effet différents ateliers animés par des associations. L'un est consacré au bois, l'autre au tissu et le dernier au métal. Ces ateliers sont ouverts à tous et gratuitement, même si un petit don est toujours le bienvenu, assure Michael.
Les gens peuvent venir avec leurs tissus déchirés, avec leurs meubles cassés en bois, ou bien avec leur vélo qui a besoin des réparations. Et nous, avec la connaissance, les outils qu'on a ici sur place, on peut les aider à remettre ça en bon état.
En tout, une vingtaine d'initiatives se sont regroupées dans ce bâtiment. Et elles tournent toutes autour d'un même objectif, limiter les déchets, favoriser l'économie circulaire et offrir une alternative à la consommation de masse. Ce projet est d'ailleurs soutenu financièrement par la ville. La commune de Berlin a en effet racheté ce bâtiment et les 6 autres qui l'entourent en 2017. Cet immense complexe de 50 000 m² abritait la maison de la statistique de l'ancienne RDA. Laissé à l'abandon depuis 2008, il devait être détruit. Mais poussé par une initiative citoyenne, la ville a décidé d'en faire un projet dédié à l'intérêt commun. Des logements à loyer modéré doivent ainsi y voir le jour, ainsi que des bâtiments administratifs et des espaces culturels. Et à la maison de la matérialisation, les visiteurs sont de plus en plus nombreux. Christine est venue aujourd'hui pour réparer son vélo et pour construire une table en bois.
Ils sont bien mieux équipés en outils que ce qu'on peut avoir à la maison et je n'ai pas d'établi chez moi. Quant à mon vélo, quand je veux le réparer, je le retourne simplement sur le sol pour le bricoler. Je n'ai pas de pied d'atelier pour le surélever. Évidemment, ce sont des choses qu'on peut acheter, mais je trouve ça idiot, ça ne me servira pas plus tard.
Réutiliser les ressources peut aussi s'avérer très utile pour des associations comme la Berliner Stadtmission qui s'occupe des sans-abri. Dans la maison de la matérialisation, elle gère une partie du marché et l'atelier de tissus. On y fabrique notamment de beaux caleçons bariolés que nous montre Michael.
En tant que centrale de récupération d'habits, ils reçoivent environ genre 80% d'habits de femmes. Mais la plupart des sans-abri sont des hommes et ce qu'ils en ont vraiment besoin, c'est des caleçons. Du coup, ils ont commencé à retravailler tous les habits qu'ils reçoivent et en faire des caleçons qu'ils après redistribuent.
Le sujet du partage est également central ici. On partage des outils, des connaissances, mais aussi des objets. L'initiative Kozum a ainsi ouvert un magasin d'emprunt sur le site. Pour 2 ou 3 euros par mois, on peut emprunter divers objets, un peu comme dans une bibliothèque. Gérard fait partie des gérants.
Nous avons différentes catégories comme des outils, des appareils de cuisine, des instruments de jardinage, des jeux pour enfants, etc. Donc tout ce qu'on a à la maison, mais dont on n'a pas besoin tout le temps. L'exemple typique, c'est la perceuse. On a besoin de faire un trou de temps en temps dans le mur, mais pour cela, on n'a pas besoin d'avoir sa propre perceuse. Selon une étude, la valeur des objets qui traînent dans les caves et les greniers de Berlin s'élèverait à 5 milliards d'euros. C'est un montant incroyable.
À la maison de la matérialisation, on trouve aussi un stand de gaufres gratuites, un repair café et différents workshops. Un projet modèle qui espère bien en inspirer d'autres dans tout le pays.
Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Françoise Grelot. Retrouvez-nous sur notre site, sur les réseaux sociaux et sur vos plateformes de podcast préférées. À demain.